Au-delà du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Face à la montée des populismes et à la défection des électeurs dans les urnes, il y a une urgence démocratique. C'est en ces termes que François Hollande a annoncé que la France accueillerait le 4e sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert. Un nom un peu abstrait pour une démarche initiée par Barack Obama, dont l'objectif est double: promouvoir la transparence dans les politiques publiques et favoriser la participation citoyenne, le tout grâce au numérique, à l'open data, les données ouvertes. 3000 personnes de 130 pays se sont donc réunis pendant 3 jours à Paris cette semaine autour de plusieurs thèmes dont le climat et le développement durable. Alors comment permettre aux citoyens de mieux comprendre les politiques climatiques de leur pays pour faire pression afin qu'elles soient plus ambitieuses? Nous en parlons avec nos invités réunis dans ce studio installé au Palais d'Iéna. Bonjour Pauline Carmona.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale pour le sommet du partenariat pour un gouvernement ouvert. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette démarche? Parce que le nom est un peu abstrait quand même.
Le nom est un peu abstrait et n'est malheureusement pas connu de beaucoup de gens. Et pourtant, c'est une démarche qui concerne directement les citoyens, puisque le partenariat pour un gouvernement ouvert, c'est une initiative internationale inédite. Ce n'est pas une organisation international classique, c'est pas les Nations Unies, c'est pas une banque de développement, c'est un partenariat souple qui associe sur un pied d'égalité des États et des organisations représentatives de la société civile. Donc aujourd'hui, 75 États membres, puisque 6 États ont rejoint le partenariat lors de la plénière d'ouverture du sommet, et des centaines d'organisations de la société civile. Et ce partenariat permet de faire se rencontrer ceux qui s'engagent en faveur de la transparence de l'action publique, de l'ouverture des données, de la lutte contre la corruption, de l'intégrité, en faveur d'une plus grande redevabilité, notamment grâce à ce que permettent aujourd'hui les outils numériques.
Alors il y a plusieurs thèmes, dont le climat et le développement durable, qui sont des thèmes plus récents.
Tout à fait, ce sont des thèmes nouveaux. Il y a 3 grandes priorités que la France et son coprésident, l'ONG World Resources Institute, ont souhaité porter pendant non seulement le sommet, mais toute leur année de présidence. Donc la présidence a commencé le 20 septembre de cette année et durera jusqu'au 20 septembre 2017. 3 grandes priorités: la transparence, la lutte contre la corruption. 2e grande priorité, les biens communs numériques. Donc l'idée que le numérique ne doit pas être un nouvel outil de fracture, mais doit au contraire être un outil qui permet d'associer les citoyens et d'associer également les pays en développement. Et 3e priorité, qui est un nouvel axe du partenariat pour un gouvernement ouvert, le climat et le développement durable. Et on est ravis d'avoir comme coprésident l'ONG WRI, World Resources Institute, puisqu'on a trouvé vraiment une convergence sur le fait de placer le climat au cœur de nos discussions.
Bonjour Antoine Michon.
Bonjour.
Vous êtes sous-directeur de l'environnement et du climat au ministère français des Affaires étrangères. Alors pour que l'on comprenne concrètement ce que vient d'expliquer Pauline Carmona, la France, au moment de la COP21, la conférence des Nations Unies sur le climat, a essayé justement de mettre en place concrètement ce principe du gouvernement ouvert. Alors ça veut dire quoi? Ça s'est décliné comment?
Alors effectivement, on avait pris dans le cadre donc du partenariat un engagement spécifique sur le climat, déjà avant la conférence de Paris, qui était d'associer beaucoup plus largement que précédemment la société civile. Et on l'a fait de plusieurs façons. D'abord, dans la préparation de notre propre engagement national, qui s'est transcrit dans la loi de transition énergétique. Alors ça, c'est un processus qui a démarré, c'était le Grenelle de l'environnement, qui est maintenant repris sous la forme d'un Conseil national de la transition énergétique et qui permet de consulter très largement toutes les organisations de la société civile sur des engagements nationaux. Ça, c'était pour la France. Et pour la COP21, on a été très attentif à consulter régulièrement, dans la préparation de la négociation, les organisations de la société civile à différentes étapes, de manière formelle, parfois de manière plus informelle. Ça, c'était vraiment pour les associer.
Donc, ce sont des réunions, en fait, concrètement.
Des réunions où on écoute, on prend leurs avis, on leur dit aussi quelles sont les contraintes du côté des gouvernements. Donc, des dialogues qui permettent à tout le monde, je dirais, de progresser dans la construction de l'accord de Paris.
Mais est-ce que ça n'aurait pas pu avoir lieu même sans ce partenariat du gouvernement ouvert? Est-ce que ce n'est pas une logique démocratique, finalement, de faire ça?
Oui, mais quand on prend un engagement public dans le cadre d'un partenariat, bien
ça
sûr,
crée
on
une
est
pression.
Un petit peu tenu de le faire et de démontrer, et donc d'être, on est quand même un peu en avant. Et on l'a été, alors encore plus pendant la COP21, où là, on a fait le choix très tôt d'avoir un très grand espace pour la société civile. Et plutôt que de l'avoir, comme dans les conférences précédentes, parfois à plusieurs kilomètres de distance du lieu des négociations, on a décidé de l'avoir à côté. Donc au site du Bourget, vous l'avez sans doute vu, il y avait la zone bleue et la zone verte qui avaient...
Ce qui a créé un précédent d'ailleurs, parce que durant la 22e conférence des Nations Unies qui était à Marrakech il y a quelques semaines, c'était la même chose.
Tout à fait. Alors on espère que ça se poursuivra. Mais effectivement, on a créé une dynamique. Tout le monde a apprécié d'avoir un très grand espace pour la société civile qui s'appelait Espace Génération Climat et qui a connu une très grande affluence. Il y a eu 90 000 visiteurs sur cet espace, 500 événements qui ont été organisés, donc beaucoup d'occasions pour des organisations du monde entier, hein, pas juste des Françaises, d'échanger, de participer. On a aussi élargi la place faite aux observateurs dans l'espace des négociations, dans la zone bleue. Il y avait 8 000 observateurs accrédités, à côté de 20 000 délégués des États. Donc vous voyez, beaucoup plus de participation et qui a permis aussi, et qui nous a obligés, nous, en tant que présidence, à être beaucoup plus transparents sur le processus de négociation. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est dans les valeurs du partenariat et qui a été très apprécié et que souvent beaucoup de gens disent qui a contribué au succès de la COP21.
Alors, Jess Walker, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez au World Resources Institute, donc c'est un think tank américain qui a été classé d'ailleurs comme l'un des plus influents au monde sur les questions environnementales. Pauline le disait tout à l'heure, vous avez la coprésidence de ce partenariat pour un gouvernement ouvert avec la France sur l'année qui vient. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Qu'est-ce que vous en attendez?
À World Resources Institute, nous croyons que les solutions au changement climatique doivent inclure la gouvernance des climatiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre aux vulnérabilités des populations dans les pays sans leur voix dans les décisions et pour qu'ils puissent vraiment contribuer aux politiques climatiques.
Par exemple, justement, avant la COP21, tous les pays, enfin quasiment tous les pays, ont fait ce qu'on appelle une contribution nationale en disant, voilà, on va s'engager d'ici 2030 à réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre en modifiant notre économie. Ça, c'est en ligne, hein, déjà, si on a accès, les contributions des pays sont en ligne. Est-ce que c'est ça, pour vous, la transparence? Et est-ce que, du coup, le partenariat du gouvernement ouvert peut créer plus de liens entre ces contributions, par exemple, exemple des pays, ce que les pays sont engagés à faire et la pression que peut mettre la société civile?
Oui, c'est vrai que les NDC étaient
NDC, c'est la version anglaise des contributions nationales.
Merci beaucoup. Je dirais deux choses. Il y a la transparence face de les processus internationaux et il y a aussi la transparence vers la société civile et les acteurs domestiques. Et nous savons à cause de nos conversations avec notre partenaire, comme Max ici, que les processus au niveau national n'étaient pas très transparents. Ils étaient faits très, très rapidement, souvent avec les consultants. Donc, il faut améliorer, il faut mobiliser les populations pour mieux comprendre comment ces politiques affectent leur vie, la qualité de vie et aussi comment ils peuvent contribuer dans les contributions dans l'avenir.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une critique qui a été souvent faite sur ces contributions nationales en disant elles ont été demandées un peu tard, donc les pays ont été obligés de les faire sur un coin de table avec un consultant, les populations n'ont rien compris au contenu et n'ont pas du tout été associées. Et c'est vrai que ça crée un problème de démocratie sur ces enjeux climatiques. Alors justement, Mac Jondo, bonjour. Vous êtes directeur de BIS ONG, qui est une ONG au Bénin. Vous êtes venu ici à Paris participer à ce partenariat. Le Bénin fait partie des pays qui a fait des contributions nationales un peu rapidement, on peut dire, avant la COP21. Est-ce que vous avez justement ce sentiment que la population n'a pas été associée? Et si vous êtes venu cette semaine à Paris, est-ce que c'est justement pour essayer de voir comment faire pour mieux participer?
Oui, en fait, c'est pas qu'on a le sentiment que les populations n'ont pas été et consulter les populations ne l'ont pas été, en fait. Et nous-mêmes, en tant que membres de la société civile, on a été associé que, je vais dire, de manière artificielle, parce qu'il fallait que la société civile y participe. Donc, vers la fin, on nous a invités pour
vous avoir invité sur la photo, quoi.
Exact. On peut dire quoi. On nous a invités pour la validation. Et même, je peux le dire, nos observations n'ont pas été prises en compte avant que le document ne soit soumis. Donc, nous, en tant que membres de VSS Initiative, on travaille en fait pour ça, pour que, au fait, l'information soit accessible à tout le monde et que la participation soit réelle. Avant, c'est, je crois, le gouvernement actuel du Bénin, il n'y avait pratiquement pas de consultation entre la société civile, en tout cas particulièrement les ONG, et le gouvernement du Bénin.
Mais sur tous les sujets ou uniquement sur les sujets environnementaux?
Sur tous les sujets.
Et notamment sur l'environnement.
Et notamment sur l'environnement. Mais avec l'avènement de ce nouveau gouvernement, on a entamé le processus et actuellement, on est autour d'une table de dialogue avec le gouvernement sur les sujets environnementaux, en tout cas ce qui nous concerne. Donc, le Bénin ne fait pas partie encore de l'OGP et du gouvernement du partenariat pour un gouvernement ouvert. Donc, les collègues de ACES Initiative, on s'est réunis ici en prélude à ce gouvernement, nous qui travaillons sur les sujets du changement climatique, justement à cause des contributions nationales qui ont été soumises à la hâte, puisqu'elles doivent être revues. On voudrait s'assurer, ensemble avec les collègues d'autres pays, que ces révisions se fassent de manière consensuelle. Et le Costa Rica, par exemple, avant de soumettre leur contribution nationale, a eu une consultation ouverte au niveau national et tout le monde a eu à participer à cette contribution. Donc, nous, on ne va pas demander jusqu'à aller à des consultations publiques, mais on voudrait vraiment que ce soit une contribution qui va être revue de manière consensuelle avec l'apport de tout le monde pour qu'on puisse justement pouvoir adhérer au partenariat pour un gouvernement ouvert.
Alors, on vous entend là au Bénin, au moment où vous dites ça, peut-être que ça va débloquer quelques verrous.
Je l'espère bien.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Cette semaine, on a beaucoup entendu parler de pics de pollution en France, à Paris, à Lyon. La pollution de l'air qui tue désormais plus dans le monde que le paludisme et le sida, selon l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour Romain Lacombe.
Bonjour.
Alors, vous êtes une autre illustration, j'ai envie de dire, de ce que peut faire la société civile comme moyen de pression vis-à-vis des politiques publiques, puisque vous avez eu l'idée en 2014 d'utiliser les nouvelles technologies qui sont au centre de cette transparence. Okay. Alors vous, justement, sur le problème de la pollution en créant Plume Lab, expliquez-nous comment ça marche.
Très bien. Plume Labs, c'est une start-up, donc effectivement un acteur innovant, en tout cas de l'économie numérique, qui cherche à permettre aux particuliers, aux citoyens, aux individus de mieux comprendre leur exposition à la pollution pour pouvoir améliorer leur santé. C'est ce qu'on appelle la santé environnementale. Alors, on développe des outils qui permettent de le faire, des capteurs de pollution, par exemple. Mais notre premier produit auquel vous faisiez référence, c'est une application mobile extrêmement simple qui permet d'avoir immédiatement accès à l'information sur la pollution dans son environnement, dans près de 400 villes du monde, une soixantaine de pays. Et la seule façon de mettre cette information entre les mains du public, c'est d'avoir accès aux mesures environnementales réalisées par les États, par les agences environnementales. C'est l'open data, l'ouverture des données publiques. Grâce à l'ouverture des données publiques, notre équipe de scientifiques et de chercheurs en sciences atmosphériques, en intelligence artificielle, ont été capables de mettre au point des modèles prédictifs. Et aujourd'hui, dans cette application, vous avez non seulement la pollution en direct, mais 24 heures de prévision, heure par heure, ce qui va vous permettre de choisir le meilleur moment pour aller courir lorsque la pollution est plus basse, d'être alerté en cas de pic, de savoir quand laisser par exemple la voiture chez soi, et de manière générale, parce qu'on comprendra mieux son environnement, pouvoir moins subir la pollution et améliorer sa santé.
Oui, mais alors j'ai envie de dire, du coup, s'il y avait vraiment une transparence des données publiques, finalement, vous n'auriez pas eu besoin de créer votre application?
Alors, je ne le pense pas, parce que cette application existe dans son état actuel en tout cas, uniquement grâce aux données auxquelles nous pouvons avoir accès. La difficulté, c'est justement d'y avoir accès, parce qu'en tant que citoyen, ça nécessite une compréhension technique des sujets, ça nécessiterait de faire ce travail ville par ville, région par région.
Ah oui, donc vous utilisez en fait les données publiques et vous les mettez à disposition
du citoyen. Ce qu'on cherche à faire, c'est démocratiser l'accès à l'information. Là où la société civile, les États, dans ce processus de gouvernement ouvert, mettent accès à l'information brute, nous cherchons à la rendre compréhensible, disponible au plus grand nombre, et en faisant ce travail d'innovation qui est justement le propre des acteurs de l'économie numérique, c'est-à-dire savoir mettre en place un design immédiatement compréhensible, savoir finalement rendre accessible cette information sur tous les nouveaux canaux. Par exemple, on a une application sur l'Apple Watch. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire pour une agence environnementale. Et le fait de nous emparer de ce sujet avec les toutes dernières technologies et l'apport justement des sciences des données pour ajouter une couche de prévision, l'apport des sciences comportementales pour comprendre comment on rend cette information la plus compréhensible possible, c'est ça qui fait qu'on a quelque chose de nouveau à apporter au chapitre environnemental. C'est une illustration de ce phénomène qui est au cœur du partenariat pour le gouvernement ouvert. L'idée que les nouvelles technologies, l'idée que les données, l'idée que la transparence, ça peut permettre à de nouveaux acteurs de jouer un rôle nouveau dans les politiques publiques. On n'est évidemment pas en train de faire une politique publique, mais ce à quoi on cherche à contribuer, voilà, c'est de démocratiser l'information sur l'environnement. Il y a beaucoup d'exemples, pas forcément liés à l'environnement d'ailleurs, dans le transport, avoir plus facilement accès grâce à des applications mobiles au transport public, ça veut dire aussi pouvoir laisser sa voiture à la maison moins polluée. On s'inscrit dans cette démarche qui est au cœur du partenariat, qui est l'open data, l'ouverture des données publiques.
Alors on verra, on est plutôt dans la deuxième partie de l'émission, un peu les limites aujourd'hui de ce système. D'ailleurs, l'actualité le prouve, la pollution, c'est loin d'être réglé. Et bonjour Emmanuel Le Touzé.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Data Pop Alliance. Alors vous êtes aussi un petit peu comme Romain Lacombe, dans la même lignée, c'est-à-dire mettre à la disposition des populations un maximum de données, mais plutôt sur les axes de développement.
Oui, alors donc Data Pop Alliance, c'est également un partenariat. Donc ça s'inscrit aussi dans cette logique de mise en relation d'acteurs de différents secteurs. Donc en l'occurrence, c'est un institut d'Harvard, un institut du MIT, une ONG britannique, ODI, Overseas Development Institute, et une ONG suédoise. Et en fait, ce sur quoi on travaille principalement, c'est le big data. En français, on traduit généralement dans la presse le big data par les données massives. Mmh. Mais en fait, ce dont on parle quand on parle de données massives, c'est simplement du matériau brut. C'est-à-dire, c'est ce sur quoi cet écosystème plus général tourne. Et moi, ce qui m'intéresse, et je pense que ce qui est le plus intéressant, parfois le plus inquiétant, et qui est porteur également de plus d'espoir, c'est l'écosystème de capacités d'acteurs autour de ce matériau brut, qui sont toutes ces données que nous émettons passivement en tant qu'êtres humains, lorsque nous interagissons, lorsque nous utilisons des services digitaux et des objets digitaux.
Mais en quoi ça peut améliorer le quotidien des gens ?
Notre vision de la mission de Data Pop Alliance, c'est de, donc c'est en anglais, mais donc c'est promoting a people-centered big data revolution. Donc,
voilà, alors on est un média francophone, il va falloir faire un petit effort.
Voilà, alors promouvoir, mais de même que pour la traduction de big data en données massives, on sait bien que la traduction n'est pas une question neutre, qu'il y a beaucoup d'ontologie autour du processus. Donc c'est promouvoir une révolution big data, parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction adéquate en français, centrée autour des gens. Donc tous les points qui ont été faits par les intervenants précédents se retrouvent dans notre mission. C'est l'inclusion des populations, c'est la question de la participation dans la définition des régulations autour des analyses algorithmiques, par exemple. Et c'est pouvoir contrôler ces données personnelles. On sait aujourd'hui que c'est un enjeu énorme, que la notion de consentement lorsqu'on clique, on utilise une app ou on utilise un réseau social ou une carte de crédit, nous consentons tous sans lire jamais les termes et conditions d'utilisation. Donc il y a un enjeu de participation, d'information sur cet écosystème, sur ces dynamiques qui est au cœur de la mission de Data Pop Alliance, qui est de démocratiser la construction du big data plutôt simplement que l'utilisation des big data.
Et que ça serve aussi aux politiques de développement. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, parce que nous allons voir si cette dynamique est vraiment en marche et si elle reste encore utopique, toujours avec nos invités, toujours au Palais d'Iéna. Ce sera juste après un bref rappel de l'actualité. À tout de suite.
Appelez-nous, exprimez-vous.